Bonjour, je crois que vous voulez débuter maintenant. C'est grâce à Emmanuel Thibloux, qui n'est malheureusement pas là ce soir, que nous avons le plaisir d'accueillir les cahiers, le numéro 4 sur Bataille, avec des intervenants formidables que la Fondation Ricard est très très contente d'accueillir autour de l'exposition de Pierre Le Guillon. Donc Thomas Clair, qui est un habitué d'ici, on est ravis de le voir. Arnaud Gissinger, j'espère que je prononce bien. Catherine Millet, merci d'être là. Et Nicolas Picella et Monica Marcus. Merci beaucoup à vous d'avoir choisi la Fondation pour présenter ce numéro.
Merci beaucoup Colette Barbier de nous avoir accueillis à la Fondation Ricard. Pour toute la bienveillance et le travail formidable avec l'équipe, parce que c'est une joie de travailler avec Pauline, avec Quentin. Voilà. Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée de lancement du nouveau numéro de Cahiers Bataille, numéro 4, qui prend exceptionnellement forme d'un dictionnaire critique. Et c'est un clin d'œil à la revue Document, où paraissait très régulièrement une rubrique justement qui s'appelait Dictionnaire critique. Et cette revue Document, qui était fondée et dirigée par Georges Bataille, paraissait entre 1929 et 1930. Je voulais d'abord peut-être remercier tous les contributeurs de ce numéro. Ils sont très nombreux et très variés, de différentes générations, de différents métiers, de différentes positions, de différentes. Ils sont tous différents. Et je voulais les remercier pour la ferveur, pour la volonté qu'ils ont eue, pour l'encouragement qu'ils nous ont donné et pour le fait qu'ils ont cru dans ce projet. Désolée, je ne voulais pas me préparer trop. Je voulais que cet événement soit beaucoup plus humain et normal, qu'on se sente tous concernés, tous partis de cette entreprise, et c'est pas toujours facile. Je voulais aussi remercier le Cercle Champ de Bataille, donc tous ces jeunes gens qui depuis 2014 travaillent ensemble, on se rencontre assez régulièrement pour parler de Georges Bataille, et c'est eux aujourd'hui qui sont un peu partout disséminés. Et je voulais bien évidemment remercier notre éditeur, la maison d'édition, l'édition Les Cahiers, Jean-Sébastien Galère, qui ne peut pas être avec nous ce soir, de nous avoir donné carte blanche pour ce numéro, et de nous avoir permis de le concrétiser matériellement. Je vais vous dire que je me suis baladée aujourd'hui aux Tuileries et il y avait un grand soleil. Et je me suis dit, ou il m'est venu à l'esprit une phrase de Bataille, et cette phrase disait « L'homme est si peu le soleil ». Ça veut dire que, en tout cas, l'interprétation que je fais de cette phrase, c'est qu'on a du mal à se donner comme se donne souvent, qu'on se donne toujours le soleil. Ça veut dire qu'on soit se protège ou on accumule, on a du mal parfois de s'ouvrir. Et je me suis dit que peut-être avec cette entreprise, en tout cas c'est ce que j'espère, on a pu être un peu le soleil. Et c'est avec tous les contributeurs, à la fois ceux qui ont écrit le texte, avec ceux qui sont venus ce soir, nos nouveaux contributeurs, avec tous ceux qui sont venus ici, aujourd'hui, ce soir, intéressé par ce projet. Bah, c'est un don, tout simplement. Et je pense que c'est une manière bataillenne de commencer le printemps aussi, sous ce signe du soleil. Voilà. Je vais tout de suite passer et je voulais dire juste un petit mot sur cet ouvrage avant de passer la parole à Nicolas et ensuite à nos intervenants. Que c'est un ouvrage qui rassemble d'environ 70 auteurs, écrivains, éditeurs, artistes, commissaires d'exposition, chercheurs, enseignants, psychanalystes, de provenance géographique, de points de vue intellectuels et politiques, de métiers et de générations, je pourrais même ajouter de personnalités différentes. Les textes réunis sont aussi de registres variés. On y retrouve les textes didactiques, poétiques, scientifiques, les témoignages, les interviews. Et l'idée de ce dictionnaire, c'était aussi de ne pas prendre bataille comme un objet scientifique. En tout cas, c'était une des manières de prendre bataille, mais aussi de jouer avec lui. Donc, de ne pas nécessairement écrire des textes qui se soumettent à la lettre de bataille, mais de partir de ses idées. Et à force de la stimulation que ces idées provoquent, d'écrire quelque chose qui soit en décalage avec la pensée de bataille et surtout qui soit très propre à celui qui écrit. Que ça soit surtout un texte qui vient de la personne qui écrit. Donc bataille joue le rôle d'un élément commun qui stimule chacun mais de manière différente et qui provoque ou qui donne des résultats aussi très différents. Et c'est pour ça aussi qu'on cherchait de rassembler de personnes très très différentes pour avoir une sorte de panoplie de différentes visions de bataille. C'est pour ça aussi que nous avons appelé un peu cet ouvrage écuménique pour essayer de brasser le plus largement possible sans... Et sur ce point, je voulais insister, sans chercher l'exhaustivité. Donc, ce n'est pas un ouvrage encyclopédique, il est inachevé et même un achèvement, je pense, soit impossible. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas pour qu'il dise un petit mot sur Georges Bataille et peut-être sur une surprise qui se retrouve à l'intérieur de cet ouvrage. Et ensuite, on va passer à notre table ronde. Merci.
Merci Monica. Merci à vous tous d'être présents si nombreux ce soir. Et oui, en effet, mon rôle, ce sera de présenter un petit peu la figure de Georges Bataille pour ceux qui ne la connaîtraient pas tout à fait. Et de m'attarder aussi sur une entrée particulière qui est contenue dans ce volume. Mais pour revenir à Bataille, pour commencer avec quelques petits détails concernant sa vie. Comme vous le savez, Bataille est né en Auvergne en 1897 et il est mort à Paris en 1962. Je dirais que Georges Bataille est un auteur à la fois majeur et mineur. Majeur par l'étendue et l'audace de sa pensée, et mineur par son style d'écriture, qui est parfois un peu rugueux, et mineur surtout par l'exigence que ses textes demandent au lecteur, c'est-à-dire l'exigence de se questionner sans détour, de se minorer en quelque sorte en tant que sujet représentant, en tant qu'acteur du cogito cartésien. Mais somme toute, il n'a jamais cessé de nous inviter à vivre à hauteur de la mort et de la tragédie qu'elle définit. Mais pourtant, il s'agit d'un tragique heureux, que seule la chance peut éclairer, en quelque sorte. Et je veux rappeler brièvement la tragédie gay que la vie de bataille a été. Donc, il a été marqué par la Première Guerre mondiale et notamment par l'incendie de la cathédrale de Reims et par l'abandon de son père qui était gravement handicapé, il était aveugle, paralytique, un père qu'il ne reverra plus. Et c'est un abandon qui lui causera des remords enfant. Et en fait, on pourrait dire que Bataille inscrit toute son écriture sous le signe de la culpabilité qui est liée à cet abandon. Et cette mort, qui est doublée de celle de sa compagne Colette Peignot, ou Laure, en 1938, déchaînera chez Bataille une jouissance qui, suivant la leçon lacanienne, va associer l'extrême douleur et le plaisir ultime selon des fluctuations dictées par les aléas de la vie, on pourrait dire. Pour revenir à sa vie, en fait, après une petite parenthèse assez littérature de fou, comme il le dit, parenthèse représentée par WC, par l'histoire de l'œil à la fin des années 20, Bataille s'engage politiquement et intellectuellement dès le début des années 30, où il critique le marxisme, analyse le fascisme, se méfie des surréalistes, il approfondit Nietzsche et surtout il lit Hegel avec Kojève. Et pour affirmer ses positions vis-à-vis de l'époque, il crée ou participe à des revues, à des sociétés, les unes plus secrètes que les autres, comme par exemple Documents, la critique sociale, Acéphale, le collège de sociologie, la société de psychologie collective, le collège socratique et enfin la revue critique à partir de l'après-guerre. Et en effet, la Deuxième Guerre mondiale représente un tournant dans sa production. À cette époque, il se réfugie à Vézelay, en Bourgogne, où il écrit ou achève les plus ardents de ses livres, par exemple L'expérience antérieure, Le coupable, sur Nietzsche, La haine de la poésie. Et à partir de cette époque, il ne s'engagera plus politiquement, mais il n'arrêtera pas pourtant de penser et d'écrire en élargissant sans cesse ses horizons. Il travaille sur La part maudite, rédige la biographie de Manet, se fascine pour les grottes de Lascaux, il écrit l'érotisme, il publie Le bleu du ciel, et puis il commente le procès de Gilles Doré, il pense le mal, la littérature, le sacré, le péché. Et en fait, ses ambitions intellectuelles deviennent de plus en plus larges avec des idées comme celle de la somatologie, par exemple, ou bien de l'histoire universelle, qui est un projet immense qu'il aborde vers la fin de sa vie, et puis surtout de la revue critique. Et ce dernier substantif critique me permet de revenir sur l'opération que l'on présente ce soir. Et s'il est vrai qu'un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les besognes des mots, c'est le mot de Bataille dans le document, alors il faudrait s'interroger aussi critiquement sur la besogne du mot dictionnaire. Et c'est un mot dont la tâche est difficilement définissable puisqu'elle déborde en quelque sorte toutes les tâches prévues par les entrées qu'il abrite. Et un peu comme le mot Dieu serait le mot qui dépasse le mot, les mots, et qu'on ajoute impunément au langage. C'est Bataille qui le dit dans la préface à Madame Edouarda, il dit « Dès l'instant où nous le faisons, c'est-à-dire ajouter le mot Dieu au langage, ce mot se dépassant lui-même, détruit vertigineusement ses limites. » Et c'est pourquoi je pense que tout dictionnaire devrait tourner autour d'une tâche aveugle, pour jouer un petit peu avec les mots, cette même tâche aveugle qui, dans l'expérience antérieure, signifie la perte de connaissance qui est liée à l'entendement quand il envisage l'homme lui-même, c'est-à-dire une exploration du possible, de l'être, possible de l'être. Et bien, dans ce dictionnaire, la tâche aveugle est représentée par une entrée signée par Bataille lui-même. Et il s'agit d'un petit texte inédit qui date vraisemblablement de 1946-47, on ne sait pas trop, lequel, ce texte, circonscrit parfaitement, je pense, l'étendue de ce possible de l'être qui est l'homme et qui par conséquent est aussi ce dictionnaire. Car il faut le dire, ce volume n'a nullement la prétention d'être didactique. Hein, il nous apprend que aller du connu à l'inconnu, du raisonnable à l'irraisonnable, du sérieux au risible, et de, je dirais aussi, de la pudeur à la honte. Et justement, honte est la notion qu'on a décidé d'attribuer à cette entrée, parce que le texte n'avait pas de titre. Et pour comprendre pourquoi honte, j'aimerais bien citer quelques lignes de ce petit texte qui est assez aphoristique. Et il est même parfois un peu drôle. Je cite brièvement. Il y a longtemps qu'en derrière révélé hors de propos fait rire. La méditation s'attarde au scandale de Jésus en croix. Mais le derrière qui fait rire, et dont Jésus lui-même aurait dû rire, si son humanité fut plus qu'une apparence, n'est pas un moins divin objet de scandale. Un derrière joli ou difforme, et mourir enfantant, font paraître la vérité. Si l'on parle de vérité, si l'on philosophe, sans dire que le derrière fait rire, la philosophie est la vieille dame dont la jupe fait la dignité, mais non la jeune fille à qui on l'ôte. Une pensée qui n'est pas à la mesure d'un mot obscène est comme une maison qu'un léger vent renverserait. L'obscénité est le cœur. On ne peut concevoir l'homme sans l'obscénité, plus qu'on ne le pourrait n'ayant jamais eu d'église ni de sacrifice. Le cœur est tellement l'obscénité qu'en dehors de Dieu, qui n'est qu'un abîme, couvre l'obscénité de la mort, en dehors de Dieu, la mort exige infiniment ce qu'il ne peut nommer. Ce n'est pas le Christ que l'humanité a mis au tombeau, mais les jaillissements criants et renouvelés qui lui donnent la vie éternelle et dont est la honte. Cette part essentielle, travail, logique, ordre public, éducation, de la vie que fonde la honte et qui ne serait pas sans la honte, est aussi utile que le pain. Mais dans la mesure où l'homme n'est pas misérable, asservi par tous les besoins qu'il lui faut satisfaire, la honte qu'il assume, qu'il aime, qu'il grise, tant que rien ne le rend plus fier ni plus libre, est à la face apparente de la vie ce qu'une certitude intime est à la parole tricheuse. La pensée est boiteuse que n'emporte pas le bonheur de la honte. Je conclurai en disant que si bataille est encore actuelle aujourd'hui et que ce dictionnaire a effectivement une besogne, elle ne consisterait qu'à nous rappeler que l'obscénité est le cœur de toute architecture de la pensée, y compris de celle qui énerve ce volume, et que la mesure de notre activité dans le monde ne peut ne pas être la honte qui nous permet d'en transgresser les limites après les avoir tracées et surtout d'en rire.
Je voulais peut-être ouvrir ce panel avec nos trois invités. Donc quand j'avais dit avant, c'est un ouvrage qui n'a pas vocation encyclopédique, ça veut dire qu'il n'est pas exhaustif. Nous avons voulu pointer son inachèvement en invitant, ou son achèvement impossible, en invitant trois intervenants, chacun dans son domaine spécifique, qui vont enrichir ce dictionnaire de trois entrées, disons. Et je vais passer la parole tout de suite à Catherine Millet, donc la fondatrice de la revue Art Press et la directrice de la rédaction, qui est connue aussi par sa plume en tant que critique d'art, d'abord, en tant qu'écrivaine aussi, à la fois dans la littérature. Je peux citer le livre Aimé Lawrence, par exemple, qui était récemment publié, ou son écriture autobiographique avec le livre que j'imagine que tout le monde connaît, La vie sexuelle de Catherine M. Je passe la parole à Catherine.